La main gauche, Daniel Messia, suggestion d'Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Pourquoi ce titre?
Ah, j'ai pensé à tous ces gens qui ont écrit dans le recueil que je vais présenter aujourd'hui, dans des situations parfois difficiles, des choses qu'on n'ose pas dire, des choses qu'on dit en confidence et qui vont rester, peu importe ce qui adviendra de l'Ukraine. C'est très, très touchant, le livre que j'ai lu hier.
Lettre d'Ukraine, récit intime d'un pays en guerre.
Oui, c'est paru aux éditions Somme toute et Le Devoir. C'est un recueil qui n'est pas très long, qui a 139 pages, mais mon Dieu, qu'il est lourd d'émotions. C'est vraiment un livre émouvant. C'est une journaliste, en fait, qui s'appelle Magdalene Boutros, qui, elle, est journaliste au Devoir, reporter, est allée quelquefois en Ukraine, a fait des contacts avec des gens. Puis là, finalement, quand est arrivée la guerre, elle avait perdu ce qu'on appelle les fixeurs, puis en tout cas, elle a quand même gardé contact. Elle a appelé des gens et avec qui elle avait eu des contacts dans le passé, puis elle a eu l'idée de donner carte blanche à 9 personnes un an après la guerre, à peu près, là, pour raconter leur vécu, pour s'exprimer librement et d'écrire sous forme de lettres. Alors, il y a 9 personnes qui ont finalement, achevé le projet, parce que plusieurs ont dit oui, mais ont été trop fragilisés puis n'ont pas réussi à écrire la lettre. Là-dedans, il y a 6 femmes et 3 hommes. Et c'est normal un peu parce qu'il y a plus d'hommes qui sont à la guerre. Alors donc, elle a réussi à rejoindre plus de femmes. Et chaque lettre est précédée de la photo des personnes, autant celle qui écrit et celle à qui la lettre est destinée ou celui. Et puis là, ben, on nous raconte c'est qui cette personne-là, d'où elle vient. Et les gens, bon, ben, c'est très varié, hein, ça varie en âge, entre 19 ans et 57 ans à peu près. C'est des gens qui ont des métiers, qui travaillent, qui sont des parents, et que, bon, le 22 février, là, quand tout ça a commencé en 2022, ben tout s'est écroulé. Et puis, bon, ben, il y a une présentation qui est, vraiment, c'est un livre complet. Il y a un côté historique qui est expliqué aussi, comment ça se fait que l'Ukraine, depuis Staline jusqu'à Poutine, a vécu des moments si difficiles. Et puis, ce qui est touchant, c'est que ces gens-là qui écrivent les lettres-là, ben, ils gardent l'espoir, même s'ils sont en colère, même s'ils sont fâchés, évidemment. Et ils sont lumineux, ils ont un sens de l'humour et l'art en général. Ben, c'est pas mal ça qui les sauve. Alors donc, quand on lit ces lettres-là, on vit la guerre, mais dans l'intimité des gens ordinaires qui ont été victimes de part et d'autre et qui vivent dans ce climat d'injustice, mais ils sont résilients, ils résistent et ils sont pleins d'espoir. Alors, par exemple, il y a Valentin qui a 39 ans, qui travaille à l'armée, qui est un soldat, bien, qui écrit à sa petite fille de 7 ans, il l'appelle mon petit lapin, puis ce qu'il lui dit, il dit « tu ne le liras pas tout de suite parce que tu ne veux pas qu'on parle de la guerre ». Mais il lui écrit comme si peut-être ne reviendrait jamais. Alors, il lui donne des conseils, puis il confie ce qu'il vit au jour le jour, parce qu'il dit « je ne peux pas le dire à personne, ici tout le monde vit la même chose que moi ». Alors, il lui dit par exemple « ne laisse jamais personne te dire que tu es une petite personne ou que rien ne dépend de toi. Au plus noir de la nuit, souris, cela t'aidera, ainsi que ceux autour de toi, à avancer malgré l'adversité. Apprends à rire de tes peurs et à ne pas te prendre trop au sérieux. L'autodérision vaut toujours mieux que l'égoïsme exacerbé. »
C'est beau, ça.
Oui, il lui dit de se battre, de se défendre comme les Ukrainiens le font. Je vous jure, c'est incroyable. Il y a une dame qui s'appelle Tetiana Burak, qui a 57 ans, qui a été, elle, victime d'un accident. Alors, elle, bon, quand la guerre débute, il n'y a plus d'électricité, sa voiture est en panne. Finalement, elle va réussir à s'en aller avec un monsieur qui est un pasteur qui les amène dans une camionnette. Puis elle dit « tout à coup, nous avons entendu une explosion. Et l'instant d'après, nous étions tous les trois blessés. Nous saignions et nous entendions des gens hurler autour de nous. Je gisais dans une mare de mon propre sang et tout ce dont je me souviens, c'est du visage inquiet du soldat ukrainien qui tentait d'arrêter le sang et de m'extirper de la camionnette. Nous avons été chanceux que des soldats aient été dans les parages. Ils nous ont sauvé la vie et ont réussi à appeler une ambulance qui nous a amenés à l'hôpital. » Et là, elle écrit ça, elle, à une amie qu'elle a connue il y a très longtemps, qui habite maintenant aux États-Unis. Puis elle termine sa lettre en disant qu'elle a bien hâte de pouvoir serrer ses petits-enfants qui sont maintenant éparpillés dans différents pays. Et elle dit, l'Ukraine va gagner cette guerre et nous reverrons les gens que nous aimons un jour. C'est incroyable le courage de ces gens et puis, comment je dirais, la foi qu'ils ont envers l'armée, envers l'avenir. Et par exemple, il y en a un qui s'appelle Mikhailo. Lui, il a créé pendant la guerre un spectacle de stand-up comique qui est allé faire dans les abris anti-bombes, puis aussi dans la diaspora ukrainienne. Il s'est promené dans différents pays, en France, en Pologne, en Bulgarie, et il dit, j'ai écrit cette pièce par désespoir. Il parlait des écrivains ukrainiens qui ont troqué leurs plumes pour les armes et qui défendent leur pays dans l'armée et qui partent volontaires pour aider les forces armées. Oui, effectivement, il y a toute une œuvre littéraire qui se fait plus, là, parce que les gens, comme il dit, ils n'écrivent plus. Alors, les gens ordinaires disent qu'il faut écrire. Et c'est ce que fait une jeune femme d'une quarantaine d'années qui s'appelle, Olesia. Elle dit, écrire et peindre, c'est ce que je peux faire pour canaliser toute l'émotion qui m'envahit depuis le début de la guerre. Elle dit, les Russes détruisent notre art, nos monuments, l'histoire de nos héros ukrainiens. Alors, on réécrit notre histoire. Je veux dessiner le plus possible pendant cette guerre, parce que finalement, elle choisit d'écrire à la femme qu'elle était avant la guerre. Puis elle lui dit, je sais, t'as peur, je sais, il y a ça, comme finalement pour mieux l'aider à traverser tout ça. Puis il y en a un aussi qui est un écrivain. Lui, il s'appelle Ivan Bedak. Il a 33 ans. Et il a publié un livre qui s'appelle Invisible, en anglais Invisible, chez Guernica, édition Guernica. C'est sorti en 2022 en anglais. Et il a écrit sur ce qu'il vivait, lui, en tant que quelqu'un qui est atteint du syndrome de Tourette. Donc, c'est sur la différence. Puis il dit, on va en avoir bien besoin, parce qu'il va en avoir bien des gens après la guerre qui vont voir peut-être quelque chose en moins, que ce soit visible ou invisible. Alors lui, quand il écrit, là, le mot « Russie », il met toujours une minuscule pour écrire ce mot-là, comme quoi finalement pour lui, c'est un pays de haine, un pays qui ne mérite pas une lettre majuscule. Et il note au jour le jour, comme un journal, des pensées, des réflexions de ce qu'il voit autour de lui. Par exemple, le 26 avril 2022, il note que sur le gilet pare-balles d'un soldat ukrainien, c'est écrit « Mon Dieu, si je meurs jeune, laisse-moi aller au paradis, parce que j'ai déjà été en enfer. » C'est terrible. Hein? Il dit qu'il faut se battre, parce que les soldats, quand ils vont revenir, il faut qu'ils retrouvent la vie dont ils se souviennent. C'est incroyable, hein, cet espoir, ce courage, j'en reviens pas. Et il y a une qui m'a beaucoup intéressée, c'est une étudiante qui a 19 ans, qui étudie en langue anglaise et allemande, et qui traduit des livres, puis elle écrit de la poésie. Puis elle s'était fait une amie pendant ses études qui s'appelle Geneva. C'est un garçon qui est allé étudier en Floride, mais qui est revenu parce qu'il est dans l'armée. Puis c'est un garçon qui est autiste. Et puis donc, ils se rappellent ensemble de leurs cours de mathématiques, puis de leur fête qu'ils ont fêtée, entre autres le jour de l'an, juste avant la déclaration de la guerre. Puis elle lui dit que c'est par l'humour qu'on va s'en sortir. Puis elle dit, il faut que les gens connaissent l'humour ukrainien. Puis c'est incroyable, là. Ils se font des vidéos où finalement, tu sais, les guerres puis les missiles des Russes, ben c'est rien. Ça, c'est parce que les Russes, ils ont un toc et puis ils veulent toujours répéter. Ils se rendent pas compte que c'est... Mais tu sais, c'est très grave. Mais en même temps, ouais. En rire comme ça, c'est peut-être une façon de amoindrir le mal. J'en sais rien. Mais je dirais que ce qui m'a touchée beaucoup, c'est que tous ces gens-là sont bien conscients que ils vivent au jour le jour. Ça me fait penser à des mourants qu'on voit puis qui nous disent, ben, je ne sais pas si je vais voir ça, je ne sais pas si je vais vieillir. Alors, il y a la préface d'Alexandra Romanovsa qui dit, il y a désormais la présence constante de ce sentiment que tout peut arriver pour la dernière fois. Le dernier café, le dernier baiser, le dernier trajet au travail, le dernier message de l'être aimé, le dernier matin. Terrible, hein? Mais ils vivent avec ça tous les jours. Moi, je connais des Ukrainiens ici qui habitent dans mon village et puis qui, chaque matin, la première chose qu'ils font en regardant, c'est est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la ville où vivent mes parents, Est-ce qu'il y a un problème dans cette ville-là? Même si eux autres ici sont bien, sont à l'abri, mais ils s'inquiètent quand même des autres.
Et toujours habités par l'inquiétude.
Exactement, c'est ça. Et ils vivent toujours d'espoir, mais En même temps, elle raconte, la journaliste du Devoir, Magdalene Boutros, qu'elle est allée le 14 février, elle, en Ukraine.
Et 14 là, février dernier?
Ah non, le 14 février 2022, juste avant le début de la guerre, okay. Du jour avant. Et puis, elle a rencontré des gens de tout âge, un peu partout, puis ils savaient que c'était imminent, là, mais ils s'y refusaient. Puis elle dit qu'ils vivaient d'espoir. Exemple, quelqu'un dit « Non, je ne ferai pas des réserves, je ne ferai pas des bagages parce que c'est comme donner raison à Poutine. Mmh. » Alors, leur haine était là et s'est installée. Puis elle raconte que jamais ils pardonneront aux Russes, jamais ils les aimeront parce que ils disent « Les soldats viennent ici, ils violent, ils tuent, ils torturent. » Et effectivement, les Ukrainiens que j'ai vus arriver ici dans notre village, ben ils se sont sauvés parce que les soldats russes essayaient toujours de les agresser. Et puis bon, ben même s'ils étaient avec leur famille, là, alors c'était une peur constante. Même quand ils étaient en Pologne, ils ont eu hâte de fuir, puis les Polonais n'étaient pas toujours gentils avec eux. Alors c'est terrible quand tu sens tout ça.
L'enfer sur terre.
Exact. Et pourquoi la journaliste a choisi de faire écrire des lettres? Parce qu'elle s'est dit que c'était un genre littéraire qui finalement permet l'intimité, la confidence, puis que finalement ça crée une relation immédiate avec le lecteur. Lire de la correspondance ou des romans épistolaires, ça fait presque plus de nos jours, on est avec les textos puis autre chose. Alors c'était justement prendre la peine d'écrire sur papier une lettre, et puis là ben, ensuite il a fallu trouver des traducteurs pour l'ukrainien. Et puis pour l'anglais, parce qu'il y en a qui l'ont écrit en anglais. Et puis bon, ben, je trouve que ce portrait de personnes qui sont au cœur de la guerre, ça nous donne une image intime, mais en même temps, ça nous permet de voir que quand on regarde leur passé, l'histoire qui se répète finalement, de montrer comment ce courage-là s'est transmis aux générations après. Puis il y en a un qui dit « C'est pas vrai qu'on va être la génération sacrifiée, c'est pas vrai. » Ça, c'est les gens de l'entre-deux-guerres à qui, effectivement, on a coupé tous les rêves. Mais il dit « C'est très important de rêver. On est aujourd'hui en train de bâtir demain et il faut que demain soit beau. » Alors, il y en a que c'est terrible. La dame qui a été accidentée dans l'accident de voiture, son mari, il marche à pied pour retourner chez lui pendant 7 heures à pied. Parce que c'est loin quand même, pour constater que l'immeuble où il vivait a été complètement détruit. Fait que là, il va dormir chez les voisins, puis revenir pour lui raconter ça, puis là, ils vont pleurer, ils ont tout perdu. Alors là, ils vont essayer de se sauver, puis elle raconte comment finalement ils sont allés aux États-Unis chez des amis qui les ont gardés en attendant qu'ils se trouvent un endroit où vivre. Mais c'est que tu perds tout. Tu perds tes repères, tes souvenirs, tes projets. Alors, ils sont très forts, c'est ce que je remarque là-dedans.
Ça doit être difficile à lire. Eux, ils ont cette difficulté à vivre cette réalité-là, mais pour le lecteur, la lectrice, j'imagine qu'il faut lire à petite dose ces lettres.
Moi, je n'ai pas trouvé ça. Au contraire, j'ai vu qu'il y avait une grande leçon à tirer de ça, parce que finalement, leur courage est contagieux. Puis quand tu compares finalement que ce qu'ils vivent, c'est pas grand-chose. Il y a la jeune étudiante qui dit que c'est pas si elle va être capable de connaître le bonheur. Attendez que je la trouve, elle. Elle dit que quand elle sourit, ben c'est jamais sincère. Elle dit, j'ai l'impression que depuis ces événements-là, ben je suis plus capable de rire, je suis plus capable de sentir le bonheur. Puis bon, ben, c'est ça ici. Elle dit, dans tout ce vortex de douleur sans fin, j'ai réalisé que j'avais perdu l'habitude de rire sincèrement, d'être heureuse ou même de ressentir du bonheur. Il me semble que ce n'est plus possible et je ne suis pas sûre que ce sera à nouveau possible un jour. Bon, elle, c'est Marina qui a 36 ans. Elle écrit au lecteur d'ici, au Canada, comme elle dit. Puis elle rend hommage à deux jeunes hommes, Roman et Dmitro, qui se sont engagés, puis qu'elle a connus personnellement, et qui ont perdu la vie en 2022, alors qu'ils avaient 24 et 27 ans. C'est épouvantable, hein? Alors, oui, c'est touchant, c'est dur, c'est révoltant, mais en même temps, c'est très humain. C'est pas comme le bulletin de nouvelles. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant à lire, c'est moins violent. parce que c'est pas le nombre de bombes qui sont tombées, c'est plus l'individu, comment il traverse tout ça.
Et c'est puis, bien écrit?
La leçon, ben oui, parce qu'il y en a là-dedans qui sont des écrivains. Les autres, ben, c'est plus sur le ton de la confidence, mais il y en a deux qui sont des auteurs, là, qui écrivent très bien. Et il y a aussi les témoignages qui ont été donnés à ces gens-là dans toute la démarche. Puis à un moment donné, il y en a une, je pense, c'est la journaliste qui raconte qu'il y a une des personnes qui dit que sa mère est toujours impressionnée quand elle voit des gâteaux. Puis elle dit, comment ils font pour faire des toutes petites fleurs sur le gâteau comme ça? Puis elle dit, je veux vivre assez vieille pour être comme ma mère, puis émerveillée par les petites choses de la vie. Donc, elle voit que sa mère est un peu comme dans l'innocence. Puis c'est ça qui est la vie, en fait, c'est s'émerveiller. Puis elle dit, je veux garder ça. Puis il y en a plusieurs qui disent, je souhaite vieillir. Puis ça me fait rire, parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de dire qu'on veut pas vieillir, parce qu'on veut rester jeune. Mais autres, là, vieillir, c'est le signe de la vie. Ça veut dire que c'est qu'ils ont gagné contre la guerre. Et puis, bon, ben moi, je dirais que ça met bien des choses en perspective.
Ah oui, hein? Belle leçon de vie. Lettre d'Ukraine, récit intime de pays en guerre. Vous en avez parlé avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, de passion, d'émotion surtout. Ça nous donne envie de découvrir cette œuvre qui est un collectif dirigé par la journaliste du Devoir, Magdalene Boutros. 139 pages, c'est publié aux éditions Somme Toute Le Devoir. Et Anne-Marie, j'imagine que vous savez que le 23 avril, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.
Oui, oui, c'est vrai.
Je vous en souhaite une belle.
Eh bien, je vous souhaite d'aller lire ce livre-là. Parce que l'Ukraine, on en parle beaucoup là, avec ce qui s'est passé dans les derniers jours, puis c'est quand même 2 ans plus tard. Mais il ne faut pas oublier les humains derrière.
Oui, oui, la jaquette du livre, on dirait un arbre avec le drapeau de l'Ukraine sous forme de ruban.
Oui, ouais. C'est ça. Effectivement, c'est le petit ruban qui noue un tronc d'arbre, là, comme quoi finalement on s'attache et on résiste.
Et aussi quand on reçoit plusieurs lettres, on les attache aussi.
C'est vrai.
Merci beaucoup pour tout ça. Passez une belle journée. On se retrouve demain. Pas demain, la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À mardi prochain.